On accueille Laurent maintenant au 3921. Bonsoir Laurent.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir. D'où nous appelez-vous Laurent? Alors je ne sais pas si vous tenez à nous préciser d'où vous nous appelez ou pas, c'est comme vous voulez.
Oui,
non, parce que je n'ai aucune annotation sur ma... D'un seul coup, j'étais un peu perdu, pour tout vous dire.
D'accord.
Alors, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous, Laurent?
Alors, j'ai 52 ans et là, je suis à Paris.
Vous êtes à Paris.
Mais c'est vrai que je suis... mon métier, c'est comédien et je bouge pas mal. Alors, je suis très souvent à Paris pour mon métier, mais je serai demain matin dans le train pour Lyon,
oui.
D'où je suis originaire. Et puis le week-end prochain à Cannes pour voir mes enfants. Voilà, donc je bouge beaucoup.
D'accord, vous êtes originaire de Lyon?
Oui.
Ok, j'adore Lyon. En fait, le hasard m'y a amené souvent et j'ai de bons amis à Lyon. Voilà, c'est juste ça en passant. J'aime cette ville, j'aime ce qu'elle dégage en fait.
J'y suis attaché à mes racines gastronomiques, voilà, pour tout dire.
D'accord, ok. Mais c'est vrai que vous avez beaucoup de choses à Lyon, question gastronomie. Ça n'est pas le premier truc qui me... Parce que moi, je suis pas très... Il y a pas mal de... Il y a un truc qu'on m'a proposé la dernière fois que j'y suis allé, j'ai pas du tout aimé, c'était des petits graillons, là, des petits... Vous aimez bien mettre des petits trucs de canard ou de... Je sais pas, mais... Et donc, comme je suis pas très viande et tout, ça m'a... Non. Mais autrement, bon, il y a bien évidemment, question gastronomie, d'excellentes salades aussi... Je ne sais pas pourquoi je me suis embarqué sur la gastronomie en fait, mais oui. En tout cas, Lyon est une bien belle ville et je trouve qu'il s'est amélioré comme tout un tas de villes comme ça. Je trouve que ces villes se sont vraiment embellies en fait. Que les maires.
J'ai beaucoup de très très bons amis, donc j'y vais toujours avec plaisir. J'ai mon père qui habite aussi juste à l'extérieur de Lyon, donc voilà. C'est...
Et vous êtes football un peu?
Non, moi je suis plus rugby. Alors je regarde quand je peux le Loup et ses progrès et les progrès qui ont été réalisés dans les dernières années.
Carrément.
On a réussi à faire une vraie équipe là, donc c'est chouette.
C'est super. Et Jean-Michel Aulas a à voir avec le rugby ou pas du tout?
Ah non, pas du pas tout. Du non, tout. Non. Aulas, il est foot.
Non, mais je ne savais pas si c'était le même. Pardonnez-moi, mais en tout cas, c'est vrai que le rugby à Lyon a fait. Beaucoup de progrès, vous êtes en Ligue 1, enfin en tout cas la première division. Bon, bah c'est super, bah voilà, on aime bien Lyon, vous qui nous écoutez, vous le saurez, comme ça. Laurent, vous voulez me parler de quoi?
Alors, bien moi, je peux vous parler de mon parcours, qui est atypique, puisque d'une certaine façon, c'est un parcours de résilience. J'ai été violé par un prêtre quand j'avais 8 ans. Et bien évidemment, on est en plein cœur de l'actualité. Et en fait, j'ai tué ce viol pendant toutes ces années.
Et combien d'années, Laurent?
Pendant 40 ans.
Oui, d'accord.
Pendant 40 ans, en fait, ce qui s'est passé, c'est que peu après, je l'ai dit à mes parents, ils ont alerté le diocèse, le prêtre a été muté, et puis terminé, on n'en parlait plus. Voilà, c'était fini. Et moi, à 8 ans, je devais considérer que l'affaire était réglée, mais ce n'était pas du tout le cas, parce que,
non.
Évidemment, après un traumatisme comme celui-là, enfant, on est dévasté de l'intérieur sans le savoir, en fait.
Mais dans un premier temps, justement, Laurent, j'aimerais m'arrêter sur ce que vous venez de dire. Lorsqu'on a 8 ans, que l'on a vécu comme ça le viol, c'est-à-dire par quelqu'un qui est censé, en plus, représenter, au-delà de la protection des adultes, mais une sorte d'autorité, parce qu'on a vu nos parents respectés, avoir une certaine considération pour cet homme de foi. Lorsque il disparaît comme ça, comment, dans un premier temps, vous avez compris la chose? Comment vous l'avez vécu? Est-ce qu'on vous a expliqué que ce curé avait été muté? Qu'est-ce qu'on vous a dit, en fait?
Alors, les souvenirs que j'en ai, et malheureusement c'est assez diffus, mais j'ai effectivement souvenir qu'on m'ait dit, ben voilà, le prêtre va être remplacé. Voilà, donc c'était. Enfin, moi, dans mon esprit, je me disais donc, ben voilà, il a mal agi, il est puni et donc il est renvoyé. Il est renvoyé ailleurs où j'en savais rien, mais c'était comme ça que je l'avais intégré en tout cas.
C'était il y a 40 ans.
Ouais.
Comment vivait-on ça il y a 40 ans ? Quel est votre sentiment aujourd'hui, votre analyse par rapport à il y a 40 ans ? J'entends par là. Est-ce qu'il y avait ce silence autour de tout ça ? Est-ce que c'était quelque chose d'exceptionnel dans l'horreur, hein, bien évidemment ? Mais est-ce que vous aviez l'impression que c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas raconter, en fait ? Ni vos parents, ni personne, finalement.
Oui, alors, surtout que moi, j'ai ce souvenir quand même d'avoir fait une tentative pour le raconter. À l'époque, j'avais deux super copines à l'école. Voilà, on était tout le temps ensemble. Et je leur avais dit, voilà, il s'est passé un truc avec le curé. Et elles m'ont pas cru, en fait.
Elles ne vous ont pas cru.
Ouais, elles m'ont pas cru.
C'était des amis du catéchisme ou du collège, en fait ?
Non, des copines de l'école, parce que donc, j'avais 8 ans, donc je devais être en CM1 ou en CE2, dans ces années-là, quoi. Et donc, on était en classe ensemble, on était dans la même classe. Et je me suis dit, c'est un truc qu'on va pas me croire, donc ça sert à rien que j'aille raconter ça. Alors, je dis ça et en même temps, parce que maintenant, avec tout le parcours que j'ai eu, j'ai un œil bien différent sur tout cela. Et je vois que par contre, j'ai eu beaucoup de chance, moi, d'avoir eu des parents qui m'ont écouté.
Mmh. On va en parler, Laurent. On va laisser passer le journal de 23h. Et puis, on va se retrouver, bien évidemment, après et évoquer ce qui vous est arrivé et ce que vous en avez tiré comme enseignement et surtout le combat que vous avez dû mener et comment vous l'avez mené. Vous restez avec moi, on se retrouve dans quelques minutes, d'accord ?
Oui, à tout de suite.
23h passées de 3 minutes, vous êtes sur Europe 1 et c'est votre libre antenne jusqu'à 1h du matin. Vous pouvez composer le 39-21, 50 centimes d'euros la minute, ou nous écrire au 7-39-21, suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace, comme l'ont fait ce soir déjà Valérie, Hélène, Xavier, Nicolas, Bélène, Patrick le routier, qui ce soir nous envoie une petite recette dont peut-être je vous ferai part avant la fin de cette émission. Pour le moment, nous sommes avec Laurent qui évoque avoir été abusé sexuellement par un prêtre à l'âge de 8 ans. Alors nous sommes bien évidemment, Laurent, en pleine actualité, puisque il n'y a pas un jour sans qu'on parle de l'Église et de ce qui s'y est passé. En remettant toutefois en cause l'attitude de l'Église, pas mal, mais ça je pense qu'on va en parler, mais on a toujours du mal. Alors peut-être que c'est de mon point de vue, mais on a toujours du mal à imaginer comment ces hommes, ces prêtres, en fait, ont pu autant abuser comme ça, impunément, sans que ça se sache, en fait. Nous sommes aujourd'hui 40 ans plus tard, en fait, Laurent, c'est ça ?
Oui.
Et j'ai l'impression qu'à cette époque, il y avait comme une chape, quelque chose qui recouvrait ce monde-là, qui l'étouffait. Est-ce que c'est le souvenir que vous en gardez, vous, en tant que victime ? Est-ce qu'à cette époque, finalement, vous avez l'impression d'être, vous et vos parents, sans doute, lorsqu'ils l'ont appris ? Parce que vous ne m'avez pas raconté, mais vos parents l'ont appris quand, tout ça ?
Alors, en fait, tout c'est, j'ai des souvenirs qui ne sont pas très, très précis, mais je pense que tout s'est déroulé à peu près dans la même année.
Oui.
Ça ne s'étale pas sur 2 ans ou 3 ans.
Oui.
Et lorsque moi, je leur ai dit, en fait, ils ont réagi rapidement. Ils ont alerté donc le diocèse ou l'évêché, je ne sais pas. Et puis, donc, dans la foulée, le prêtre a été muté. Et puis après, terminé, on n'en parle plus. J'ai eu l'occasion, évidemment, avec l'actualité, d'en reparler avec ma mère la semaine dernière.
Oui.
Pour lui demander, justement, pourquoi ils n'avaient pas porté plainte, par exemple. Et elle m'a dit qu'à l'époque, ça leur était même pas venu à l'idée, en fait. Parce
oui,
que pour eux, pour eux, le plus important, c'était de régler le problème, de s'assurer qu'il n'y ait pas de risque que je puisse être à nouveau victime. Et puis, voilà, c'est-à-dire que comme il y avait un tel silence et qu'on ne parlait pas du tout de ces choses-là, eh bien, chaque fois que, ou plutôt, en l'occurrence, dans le cadre d'une famille, on se dit, c'est quelque chose qui est exceptionnel au sens, c'est arrivé à mon fils, mais ça n'arrive pas ailleurs. Donc,
est-ce que vous savez, par exemple, si ce prêtre a fait d'autres victimes à l'époque, il en a sans doute fait d'autres?
Alors, je ne sais pas. Je n'ai pas l'information.
Mm-hmm.
Pour tout vous dire, j'ai toujours, en fait, refusé de rechercher ce prêtre jusqu'à il y a un an,
oui.
Où je me suis décidé à me dire qu'il fallait que je passe au-delà de mes peurs et que peut-être que c'était bien pour moi que j'essaie de le retrouver. Mais pour la petite histoire, j'ai donc contacté l'école catholique où j'étais à l'époque. On m'a dit qu'il devait consulter les archives et qu'il me ferait savoir le nom du prêtre, parce que je ne m'en souviens pas, et éventuellement là où il se trouve. Et donc, depuis un an, j'attends toujours. Je pense que les archives doivent être énormes et difficiles à consulter.
Alors, sans doute, mais il y a de toute façon, j'ai l'impression que... D'ailleurs, ça n'est pas une impression, j'ai vu... un très bon cache investigation, je crois, il n'y a pas très longtemps, qui montrait bien quelle avait été l'attitude de l'Église, en règle générale, par rapport à ces prêtres, quel avait été le positionnement de l'Église. C'est-à-dire, j'entends par positionnement, protection de ces prêtres, puisque non-dénonciation de ces prêtres, protection car un peu extirpé comme ça, comme... on enlève quelqu'un, on extirpe quelqu'un pour le mettre au secret. Et puis, on a aussi fait en sorte que ces prêtres se perdent dans la grande toile d'araignée de Rome, en fait, c'est-à-dire qu'on les a envoyés aux quatre coins du monde, pour certains, notamment en Afrique, où ils ont recommencé de plus belle, mais qu'il y avait un système de... Comme les agents secrets, en fait. Il y a comme un ministère au sein de l'Église qui gère ce genre de choses et qui fait en sorte qu'on brouille les pistes et qu'on puisse perdre la trace de ces hommes-là, en fait. Vous n'aurez pas de réponse de cette école. Je pense qu'il faut que vous tapiez plus haut pour avoir des réponses. Vous ne pensez pas?
Alors, c'est exactement ça, parce que moi, mon parcours a fait que, donc aujourd'hui, je suis comédien et donc j'ai écrit une pièce de théâtre qu'on joue actuellement et on a énormément de succès et on l'a joué à Reims avec à la demande d'Éric de Moulin-Beaufort, qui est l'évêque de Reims et qui est le président de la Conférence des évêques
oui,
de France.
Oui. Mmh.
Et après la pièce, on alloue toujours du temps d'échange avec le public, et la question m'a été posée, de savoir si j'avais cherché à retrouver le prêtre. Donc j'ai fait la même réponse que ce que je vous ai fait tout à l'heure, et Éric de Moulin-Beaufort m'a dit « mais c'est pas possible ça ». Et il m'a dit « je vais m'en occuper personnellement, Eh bien, 2 jours plus tard, j'avais un mail de sa part.
Oui.
Avec un nom de prêtre qui correspondait à l'année à laquelle j'étais dans cette école. Voilà, donc effectivement, suivant qui s'occupe de faire la demande de lecture des archives, il y a une efficacité différente.
Et ce prêtre, donc, est toujours vivant ? Il est toujours... il est où, ce prêtre ? Il vous a donné son nom, mais est-ce que...
Alors, je ne sais pas, parce que... avec Éric de Beaufort, on sait, parce qu'il m'a écrit plusieurs mails, ça s'est fait en 2 ou 3 temps, pour qu'on essaie de cadrer bien les années, parce qu'il y avait plusieurs noms, et malheureusement, les noms qu'il a mentionnés, moi, ne m'évoquent rien.
Oui.
Et je ne voudrais pas qu'il y ait une confusion, parce qu'il y avait effectivement un prêtre qui était aumônier, donc dans l'église catholique où j'étais, mais comme on était dans un petit village, donc c'était à l'extérieur de Lyon, à Charly, et il y avait aussi un prêtre qui officiait dans l'église. Donc je ne veux pas qu'il puisse y avoir le moindre risque de confusion,
oui, confusion
entre ces deux personnes. Voilà, pour l'instant, on en est là, et après, l'actualité est venue prendre la priorité sur notre échange, mais je sais qu'on... On va finir par avoir l'information exacte.
En tout cas, ce que soulève l'actualité aujourd'hui, c'est l'attitude de l'Église donc pendant presque un demi-siècle, et surtout la protection dont ont bénéficié tous ces prêtres qui auraient dû aller en prison, qui auraient dû en tout cas faire l'objet d'une condamnation, en tout cas d'un passage devant un tribunal. Or, à l'époque, rien de tout ça n'a été fait. Vous évoquiez l'attitude de vos parents qui n'avaient même pas eu l'idée de porter plainte. Ça vous évoque quoi, vous, aujourd'hui ? On ne pouvait pas porter plainte contre l'Église à l'époque ? Ça ne se faisait pas ? On avait peur du scandale ? Qu'est-ce qui a pu les mener à avoir cette attitude-là, vos parents ?
Non, je pense plus que... ils y ont pas pensé, en fait. Ils n'imaginaient pas qu'il faille porter plainte. Je pense que dans la mesure où on leur a dit, le prêtre, on le mute et on le déplace, on l'envoie ailleurs, pour eux, ils se sont dit, ça suffit.
C'est tout de même assez incroyable. Je suppose que pour vous, de votre point de vue, ça doit être quand même quelque chose de difficilement acceptable que vos parents se soient dit ça. Bon, on le mute, ça y est, c'est fini. On va passer à autre chose. Il n'y a pas eu un moment où ils se sont inquiétés de votre santé mentale, du traumatisme que vous aviez vécu. Est-ce que vous avez souvenir de ça ?
Effectivement, il n'y avait pas d'inquiétude spécifique par rapport aux répercussions, psychologiques que ça avait pu avoir, effectivement.
Alors justement, des répercussions psychologiques, il y a dû y en avoir. Vous écrivez une pièce aujourd'hui que vous jouez, dont on relaiera bien évidemment les dates et tous les renseignements nécessaires pour qu'on puisse venir vous voir dans les mois qui viennent. Mais justement, en fait, cet enfant de 8 ans à qui on dit tout simplement ça y est, il n'est plus là, on l'a mis plus loin, enfin, on l'a muté. Qu'est-ce qu'il devient, cet enfant de 8 ans ? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête ?
Il met un couvercle là-dessus et puis il avance dans sa vie. Et puis quand il grandit, il se rend compte que quand il commence à avoir ses premières petites amies, il y a une vraie appréhension de la relation sexuelle parce qu'il y a une espèce de connotation inconsciente de quelque chose d'interdit, de mal, et la peur d'être en train de transgresser un interdit. Et d'ailleurs, je le reliais pas forcément au début à mon traumatisme. Je pensais que c'était peut-être juste parce que c'était les premières fois. Donc, et puis petit à petit, je me suis bien rendu compte que c'était persistant. Et voilà. Alors en soirée, on picole comme ça. Ça donne toujours une excuse où ça permet d'essayer d'avoir moins peur. Et puis surtout, on essaye d'avancer. On essaie d'avancer avec ça. Et
Est-ce que
puis,
c'est
puis
possible
voilà.
d'avancer avec ça, Laurent?
Oui,
Oui.
bien sûr, c'est possible. On fait avec, comme beaucoup d'autres personnes doivent faire avec tout un tas de choses. Voilà. Moi, c'était ça mon caillou dans ma chaussure, quoi.
Mais est-ce qu'il
Puis,
y a eu un moment dans votre vie où vous avez éprouvé le besoin d'en parler, d'être entendu, d'être compris, je ne sais pas, par votre femme, parce que je crois que vous êtes marié aujourd'hui?
Alors, non, je suis divorcé deux fois.
D'accord.
Voilà. Et j'en ai parlé effectivement une première fois. J'avais évoqué avec ma première épouse, mais voilà, pas plus que ça. Et par contre, en fait, plus j'avançais dans l'âge, plus je me rendais compte à quel point ce viol d'enfant avait des répercussions à plusieurs niveaux psychologiquement
Oui.
et donc plus je me rendais compte que il fallait quand même que j'essaye de réparer le mal qui avait été fait d'une façon ou d'une autre. Donc c'est vrai qu'avec ma deuxième épouse on en a beaucoup parlé. Voilà.
Elle vous a aidé?
Et oui, elle m'a beaucoup aidé. Et puis à l'époque d'ailleurs j'avais vu un psychologue, mais ça avait été par contre catastrophique parce que je ressortais des séances dans un état absolument un état psychologique complètement, enfin j'étais en vrac complet quoi,
Oui,
je
oui.
savais plus où j'étais, c'était terrible, terrible. Donc ça j'ai arrêté rapidement. Et puis voilà, puis après on essaie de pas en parler tout le temps non plus.
Non, mais
Donc
en même temps, on peut comprendre que à différents moments, on puisse vouloir l'évoquer pour avancer et que, comme vous l'évoquez, sur différents secteurs de notre personnalité ou de notre vie, on puisse venir se heurter au malaise que ça peut provoquer chez vous. Mais on va marquer une nouvelle pause, Laurent, et puis on se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite. 23h20, vous êtes sur Europe 1 et c'est votre libre antenne jusqu'à 1h du matin. Laurent, vous évoquez donc ces séances chez le psy d'où vous ressortiez en vrac. Qu'est-ce qui n'allait pas là? Vous n'arriviez pas à aller au bout, vous n'arriviez pas à formuler ce qui se passait. C'était peut-être aussi le psy qui n'était pas bon ou connecté à vous comme il fallait. Comment est-ce que vous avez vécu ça?
oui, alors j'ai souvenir de notamment d'une séance où en fait on s'est pratiquement rien dit de toute la séance. Moi j'étais très en attente d'explications pour essayer de comprendre et c'était des séances où en fait de ce que je crois comprendre avec le recul, enfin voilà, c'était surtout moi qui parlais mais moi ça m'amenait à rien de ne faire que parler quoi.
Vous recherchiez quoi en fait à l'époque? Parce que lorsque vous dites que vous vous sentiez atteint à différents niveaux, est-ce que ça se traduit par un manque de confiance dans la sexualité, un manque de confiance professionnelle, un manque de confiance dans la relation à l'autre d'une manière générale? Comment vous, avec quel mot vous me diriez ça?
De l'hypersensibilité.
Oui.
Voilà, je pouvais m'emporter très vite. Ouais, de la surprotection envers mes enfants, bien sûr.
Oui.
Donc moi, ce que je cherchais, c'était à comprendre. Je me disais que si je comprenais exactement l'impact de ce qui m'était arrivé, je pouvais comme ça essayer de remettre les choses en ordre pour avancer dans ma vie, quoi. Mmh.
Parce qu'il y a eu beaucoup de... Il y a eu un film, notamment, il y a 4 ou 5 ans, je crois. Peut-être moins.
Il y a le film de François Ozon, Grâce
oui,
à
de
Dieu.
Oui, de François Ozon, que j'ai trouvé vraiment somptueux, ce film. Et on voyait, on percevait... comme si, en fait, toutes ces victimes avaient été mâchées et recrachées hein, par leur bourreau. Ils expliquaient combien ils étaient...
On voit très très bien dans le film, au travers des trois personnages, que chacun, ils ont vécu tous les trois la même chose,
oui,
ou à peu près,
exactement,
on va dire.
Oui.
Mais chacun en est ressorti...
différemment
complètement
impacté.
Complètement différemment.
Oui.
Et on voit Sean Harlow qui incarne effectivement celui qui a été le plus détruit et qui lui plonge dans l'alcool, la drogue, et il est en perdition complète, quoi.
Qu'on n'arrive pas à percevoir, notamment chez lui, sa quête, en fait, parce qu'elle est tellement profonde, c'est-à-dire il y a une quête de justice, de reconnaissance, mais en même temps... un déficit
ce qui se passe dans ce cas-là, c'est qu'on ne s'aime pas.
On ne
Donc
s'aime
on
pas.
Se détruit. On se détruit parce qu'on ne sait, on n'arrive pas à s'aimer.
C'est-à-dire, en fait.
Eh ben, on se dégoûte de ce qu'on a vécu, donc de ce qu'on est, et on ne peut pas s'aimer. Donc, comme on ne peut pas s'aimer, on se détruit avec de la drogue ou de l'alcool ou voilà. Et on s'entraîne. L'inconscient nous emmène dans une espèce de perdition puisqu'on n'a pas de, on a peu de valeur à nos propres yeux.
Et est-ce que tout cela ne découle pas en grande partie justement du fait qu'on est étouffé, ça, que on est caché, ça, que on ne vous est pas tout de suite, oui, d'accord.
Ah, c'est sûr parce que en plus le problème c'est que voilà, donc ça arrive, mettons à l'âge de 8-10 ans, et puis après, même si on croit qu'on n'y pense pas, c'est bel et bien présent dans notre subconscient, et qui fait un véritable travail
d'empoisonnement.
Un travail d'empoisonnement, et c'est dévastateur. Et c'est là où c'est important de pouvoir contourner ça. Moi, j'ai fait récemment des séances qu'on appelle de SS ce qu'on m'a expliqué, c'est que ce qui se passe, c'est que le souvenir n'est pas rangé, en fait. Donc, le cerveau va garder ce souvenir-là à la périphérie, au lieu de le ranger dans une case, là où il doit être. Et ce qui fait que dès qu'il va y avoir un événement, une situation, une parole qui va être connexe à cette situation, eh ben le cerveau, il va bugger. Il va bugger comme sur un ordinateur, l'erreur 404.
Il ne l'intègre pas. Il ne l'intègre pas.
Il ne l'intègre pas et ça fait bugger. Donc, ça se traduit par
un désordre
des problématiques
de tout le
comportementales.
Reste.
C'est ça. Et ça déclenche du désordre ailleurs. Voilà, donc... La priorité, là, c'est déjà de ranger ce souvenir dans une case, de l'intégrer et ensuite d'arriver à s'accepter et d'assumer qui on est avec ce souvenir-là et ce qu'on a vécu.
Vous m'avez dit avoir un souvenir vague de tout ça, en tout cas des conséquences de l'attitude de vos parents, de tout ce qui se passait autour de vous lorsque vous avez parlé. Mais est-ce que le souvenir précis de l'agression, du viol, reste, elle, aussi présente nettement ou c'est pareil, c'est comme le reste?
Oui, moi, parce qu'il y avait, il y a eu deux phases, en fait. Pendant les cours de catéchèse, le prêtre m'envoyait souvent, il me renvoyait de la classe, en fait, et il me faisait attendre dans le couloir, toujours sous des prétextes, parce que je discutais ou autre. Et puis ensuite, il venait me chercher. Et là, c'était le moment où, comme on était seul, il en profitait pour m'embrasser, pour me caresser. Et ça, j'ai gardé ces souvenirs très précis. Et puis, il y a eu le jour où, comme il avait un appartement dans l'école, le jour où il m'a invité. Enfin, j'allais de temps en temps chez lui, parce que moi, j'habitais juste à côté. Et d'habitude, il m'offrait toujours des bonbons, des petits cadeaux. Et puis, il y a eu le jour où il m'a emmené dans sa chambre et il m'a fait une fellation.
Et là, je pense que c'est totalement le... Tout doit s'écrouler à ce moment-là.
C'est la panique, la peur. Ouais. Un immense sentiment de solitude a posteriori. Ouais. Bon, ouais.
Voilà. On va marquer une nouvelle pause, Laurent, et on se retrouve dans quelques secondes, d'accord ?
Oui.
À tout de suite. 23h39, vous êtes sur la libre antenne d'Europe 1. Laurent, en fait, vous évoquez donc cette solitude. Lorsque tout ça est fini, comment cet homme agissait-il avec vous, devant vos parents ou durant les cours de catéchèse suivants ? Il était comment avec vous ?
Devant mes parents, il n'y avait pas de situation où mes parents étaient là, parce que moi je le voyais finalement uniquement à l'école. Mmh. Et en classe, c'était donc pour les cours de catéchèse, et les souvenirs que j'en ai, voilà, c'est que après, c'était devenu un peu mécanique. Je sais pas, je crois que dans la tête d'un enfant de 8 ans, même si ce qui se passe est dégoûtant, on se dit qu'on est quand même un peu le préféré.
Oui.
Parce que on a cette espèce de traitement privilégié. Alors, je ne sais pas comment c'est possible d'arriver à penser ça, mais je crois que c'est ça qui arrive.
Je pense que c'est tout à fait normal de ouais. penser qu'on est, celui qui a un traitement spécial, alors bien évidemment, mais différent. Oui, le préféré, c'est ça. C'est ce qui ressort à chaque fois dans les explications des victimes. J'étais le préféré. Il faisait de moi pas le chef, mais oui, le préféré, c'est le mot.
Ouais, le chouchou. Quoi.
Ouais.
Et donc, ce qui fait que, après, c'est comme un espèce de jeu où moi, je faisais un peu exprès de faire l'idiot en classe, comme ça, je savais que je serais à nouveau sorti. Et voilà, donc, il y avait ça qui s'était mis en place. Quoi.
À partir de quand vous arrivez à peut-être est-ce que vous arrivez à identifier le moment où vous allez commencer vraiment à vous réparer et comment en fait
donc ça c'est très très récent. Moi j'ai eu un parcours où j'ai été chef d'entreprise et puis j'ai toujours voulu faire du théâtre depuis tout petit.
Oui.
Et puis j'en faisais en amateur dans une troupe. Et puis en 2015, j'ai décidé que je changeais de métier et que j'allais suivre donc une formation professionnelle pour être comédien.
Par envie de raconter quelque chose ou de jouer un autre personnage.
Oui, c'était vraiment le plaisir de faire du théâtre. J'aimais être sur scène. Voilà, la scène, c'était mon truc, quoi, vraiment. Et ça me plaisait beaucoup. Et donc, j'ai dit, si je veux le faire, il y a un moment, il faut se décider, quoi. Voilà. Après, ça va être beaucoup trop tard. Et donc, je suis monté à Paris, j'ai suivi des cours. Et là, c'est là où en fait, le déclencheur s'est mis en place. Parce que, en fait, très vite, je me suis rendu compte qu'il y avait des situations et des répliques où j'étais mal à l'aise pour jouer. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, il faut que je me débarrasse de mon histoire, de mon traumatisme. Sinon, je ne pourrais pas faire ce métier-là correctement.
Oui.
Et je savais en deuxième année du cursus qu'il y avait ce qu'on appelle une carte blanche, c'est-à-dire on a le plateau libre et on fait ce qu'on veut pendant 8 minutes. Et je me suis dit, c'est l'occasion de faire un témoignage de ce qui m'est arrivé, mais je ne voulais pas juste déposer comme un paquet, raconter le viol comme un paquet et le déposer comme ça, comme si j'étais en thérapie. Non, je voulais faire un objet théâtral, et donc j'avais amené ça avec un axe qui était celui du poids du regard de l'autre. Et parce que finalement, c'était ça qui m'avait bloqué toute ma vie, la honte, l'impossibilité de parler de ce qui m'était arrivé parce que j'avais cette culpabilité au fond de moi, parce que j'avais honte de ce que mes amis auraient pu penser de moi si je leur disais ce qui m'était arrivé. Et donc, j'ai présenté cette capsule théâtrale, et là, devant l'émotion des élèves et du professeur, je me suis dit, mais finalement, si j'ai réussi à faire ça, je dois pouvoir aller plus loin. Et c'est comme ça que j'ai écrit la pièce. Voilà, j'ai écrit la pièce de théâtre qui s'appelle « Pardon, point d'interrogation ».
Pourquoi, d'ailleurs, ce titre, quand je l'ai lu, je me suis dit, j'allais vous demander ce que ça signifiait, pardon, point d'interrogation.
Alors, la pièce raconte, en fait, la pièce, c'est une histoire d'amour entre une femme et un homme qui a été victime d'un curé pédophile, qui est donc devenu un pédocriminel. La pièce raconte l'impact de ce traumatisme d'enfant sur sa relation amoureuse avec cette femme quand il est adulte, avec toutes les conséquences que cela engendre. Et bien sûr, donc c'est mon histoire, c'est l'histoire de ma vie. Et je présente à la fois ce duo-là et un autre duo qui est un prêtre très conservateur face à une religieuse qui essaye de faire bouger des choses. Et vous avez les deux duos qui s'enchaînent comme ça tout au long de la pièce. Et puis après, il se passe d'autres choses. Et en fait, dans la pièce, on donne tous les ingrédients pour réfléchir et on donne des éléments, des pistes de travail pour savoir effectivement qu'est-ce qu'on peut faire dans une telle situation et est-ce que oui ou non, il est possible de pardonner dans une telle situation. Et moi, j'ai nourri la pièce de beaucoup d'authenticité avec les éléments de ma vie. Et puis, j'ai fait beaucoup de recherches aussi, évidemment, pour nourrir les deux personnages qui représentent une église à deux vitesses. Et puis, d'autres éléments aussi qui permettent de réfléchir un peu différemment et en dehors des clichés. Et c'est ça, surtout, qui est important. Et le point d'interrogation, en fait, il est pour le spectateur, parce que ce que j'ai trouvé qui était intéressant, c'est qu'à la fin de la pièce, justement, le spectateur puisse se poser la question et se dire, avec tout ce que j'ai vu, qu'est-ce que moi, je pense que la réponse serait. Voilà.
Et est-ce que vous avez, en écrivant cette pièce, est-ce que vous avez quelque part réussi à, comme vous le disiez tout à l'heure, à ranger ce moment-là, à le classer quelque part, en tout cas à l'isoler, en tout cas à le mettre en place dans votre cerveau? Est-ce que le fait d'avoir écrit cette pièce, en rejouant un certain traumatisme quand même de cet homme dont vous nous parlez, victime, et puis ensuite qui rencontre cette femme, est-ce que ça vous a aidé à vous rencontrer, en fait?
Oui, alors, ça, c'est le point, en fait, le plus important, c'est que toute cette démarche, je me rends compte, ma quête personnelle, c'est d'essayer de trouver qui je suis. Depuis la pièce, je l'ai écrite, oui, en 2018, on l'a joué au Festival d'Avignon en 2019 pour la première fois. Et depuis ce moment-là, moi, je suis vraiment à la recherche de qui je suis. Et j'essaye d'avancer. Comme je dis toujours, je marche dans le vide. Et puis, le chemin se construit sous mes pieds. Et, et j'essaie d'avoir de croire en moi au travers de ce parcours. Et en fait, je rencontre beaucoup de... J'ai beaucoup de chance parce que je rencontre beaucoup de gens qui m'encouragent, en fait.
Oui. Voilà. Mm-hmm.
Qui me félicitent, qui m'encouragent. J'ai rencontré un nombre incroyable de victimes qui sont contentes que je porte cette parole.
Oui, oui.
Et que je contribue justement à libérer la parole et à briser les tabous, parce que au final, c'est uniquement ce silence incroyable qui fait que eh bien on reste prisonnier de nos mots.
Mmh. Oui, j'en reviens à ce moment de ouais. Ce moment où ce prêtre vous laisse dans cette pièce alors qu'il vient de vous violer. J'en reviens au moment où on écarte ce prêtre de votre quotidien et qu'il disparaît. Et ce moment où on ne vous demande pas pardon, on ne vous dit pas que vous êtes une victime et que finalement ces 40 années où vous avez cherché, où vous étiez seul, hein, comme beaucoup de ces victimes, vous avez évoqué le pardon au début, la résilience au début de votre témoignage. Est-ce que finalement le salut, votre salut et celui des victimes, il n'est pas dans le fait d'entendre aujourd'hui l'Église vous demander pardon? Est-ce qu'on vous a demandé pardon comme ça, en face? Est-ce que quelqu'un de l'Église vous a dit s'est excusé pour ce que vous avez subi? Est-ce que c'est quelque chose qui vous ferait du bien ou qui vous a fait du bien si ça a eu lieu?
Alors c'est drôle que vous me posiez la question, parce que c'est vrai qu'après chaque représentation, c'est une des questions les plus fréquentes qu'on me pose. Voilà, est-ce que j'ai pardonné au prêtre qui m'avait violé? Et la réponse que j'ai eu fait invariablement, c'était de dire, mais pour que moi je puisse accorder mon pardon, il faut qu'on me demande pardon. Mmh. Et comme dans mon souvenir, le prêtre est un peu âgé, je me suis dit qu'il y avait des chances qu'il soit peut-être
qu'il ne puisse jamais le faire, ouais.
et qu'il puisse jamais le faire. Et donc, mais je sais aussi que ça me servait un peu d'excuse pour pas avoir à le chercher.
Pour ne pas vous confronter, vous voulez dire?
Oui, c'est ça, exactement. Ouais, ouais, ouais. Mm-hmm. Ouais, parce que l'idée de me confronter à lui me terrorisait,
bien sûr. Ouais, ouais.
Et c'est juste. Donc l'année dernière que j'ai dit, mais non, il faut que je traverse cette peur-là aussi et que j'aille, que je fasse au moins la première étape qui est d'essayer de chercher où il est, et puis après on verra. Et donc pour revenir à la question du pardon, j'ai toujours répondu ça. Et quand on a joué à Charleville-Mézières, donc on était, donc après la représentation, il y avait Éric Dumoulin-Beaufort qui était là avec nous. Et puis, il y avait une des personnes aussi de la cellule d'accueil et d'écoute qui a rappelé que l'Église avait demandé pardon aux victimes de la part des prêtres, justement, qui étaient décédés. Puis il y avait quelqu'un qui insistait avec la question dans le public. Et puis là, j'ai fait une association d'idées. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai un représentant de l'Église là, à mes côtés, pourquoi je ne lui demanderais pas, moi, de me demander pardon au nom du prêtre qui m'a violé? Puis, en fait, je me posais la question, et en même temps, je me disais, mais c'est pas possible, je ne peux pas lui demander. Oh là, c'est pas le moment, on est après la pièce de théâtre, il y a du public, si jamais il me dit non, c'est pas le moment, je vais avoir l'air ridicule.
Oui.
Voilà. Encore le poids du regard de l'autre, là, Et puis je me suis dit, voilà, oui, il va me proposer peut-être de le faire plus tard. Puis je me suis dit, non, là, bref, ça a duré comme ça, mais en tout le temps des questions, ça tournait dans ma tête. Et puis à la fin, au moment de clore le débat, j'ai dit, mais attendez, il reste une dernière chose à faire quand même. Et puis je me suis lancé, je me suis tourné vers Éric de Moulin-Beaufort, et je lui ai dit, Monseigneur, est-ce que vous accepteriez ce soir de de me demander pardon au nom du prêtre qui m'a violé en tant que représentant de l'Église. Et il s'est levé et il m'a dit, Monsieur Martinez, je vous demande pardon au nom du prêtre qui vous a violé en tant que représentant de l'Église ce soir. Et je me suis levé à mon tour et je lui ai dit, Monseigneur, ce soir, j'accorde mon pardon au prêtre qui m'a violé grâce à vous ou à travers vous en tant que représentant de l'Église. Et voilà, je l'ai fait à nouveau. C'était vraiment ce soir-là, c'était une idée, une impulsion et encore une peur à traverser pour aller au-delà de ce que je ressentais qui était une nécessité. Et puis, se sont écoulées 24, 48 heures. Bien sûr, j'y pensais tout le temps. Oui. Et puis, je me suis rendu compte au bout de jours à quel point j'étais soulagé d'un poids, mais immense. C'est comme si je m'étais défait d'une armure, quoi, parce que j'avais toutes ces années de colère, de haine, de rancœur, de désir de vengeance qui avait dû tourner en moi inconsciemment. Et là, j'avais posé tout mon paquet à côté de moi et j'étais libre. Voilà, et je le ressens encore aujourd'hui. Voilà, c'était une expérience dingue et je suis vraiment, mais vraiment content de l'avoir fait. Quoi.
Ça devait en tout cas faire résonance avec 40 ans auparavant le silence assourdissant que vous aviez vécu, Laurent. On marque une dernière pause avant de conclure ensemble. À tout de suite, Laurent. Il est 23h47 sur Europe 1. Vous pouvez continuer à nous appeler au 3921 ou nous écrire au 739-21 suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace. Une étape que ce pardon, Laurent, dans un contexte où, bien évidemment, on sent la pression exercée par la société à travers les médias sur l'Église. Est-ce que vous sentez, vous, en tant que victime, est-ce que vous sentez cette Église vraiment à 200% dans le pardon ou finalement vous sentez encore une certaine gêne ou une excuse qu'on puisse donner à ces prêtres qu'on a dit malades, déviants, vous voyez, dans la continuité de la protection dont ils ont bénéficié, Est-ce que vous, en tant que victime, vous sentez cette Église vraiment bien en place par rapport à ce pardon ?
Alors, ce que j'ai pu observer, parce que effectivement, lorsqu'on a joué la pièce dans les différents diocèses, parce qu'il faut dire que la pièce, on l'a jouée à la Conférence des évêques de France en février cette année, et que suite à ça, donc on a eu des demandes pour jouer donc dans différents diocèses, et j'ai eu l'occasion donc de pouvoir rencontrer plusieurs évêques. Et puis surtout, j'étais moi présent mardi dernier à la remise du rapport de la CIAZ, donc à Éric de Moulin-Beaufort.
Oui.
Moi, ce qui m'a sidéré ce matin-là, c'est que j'ai trouvé que tout était très poli. Et je n'ai pas senti l'urgence.
Ouais,
voilà.
Ouais,
alors
ouais.
Que on est en train de parler de 330 000 enfants qui ont été violés ou abusés sexuellement. Enfin, c'est juste des chiffres qui ne peuvent que déclencher la sidération. Et voilà. Puis alors, donc on dit donc ça veut dire qu'il y a des prêtres qui ont à leur actif 100, 150 victimes. Enfin, et on se dit que ces prêtres-là ont été protégés, donc bon, c'est monumental, quoi. C'est juste pas audible, quoi. Et face à ça, il devrait y avoir une urgence absolue de passer au chiffre zéro. Et moi, je n'ai pas ressenti ça, malgré le discours de François Deveau qui a dû mettre un bon électrochoc à tout le monde. Mais je crois que ça ne suffit toujours pas. Et en fait, j'ai compris pourquoi, parce que Eh bien, tout simplement parce que l'Église, donc, structurellement déjà, et ensuite, je dirais philosophiquement, elle est désemparée face à cette situation.
Oui.
Et elle n'est pas en mesure de réagir rapidement parce que
elle n'a pas les éléments même en son sein capables de réfléchir et de s'adapter à cette situation en fait.
Alors la réflexion si, parce que les évêques ont une grande qualité, c'est leur qualité intellectuelle justement de réflexion, mais malheureusement c'est ce qui les déconnecte d'une capacité à mettre en place des solutions concrètes très vite. Et c'est là où est le problème. Et j'ai eu l'occasion d'en discuter avec certaines personnes. Et là, il faut appliquer immédiatement une méthodologie pour dire, ben voilà, on met en place, en plus, dans le rapport de la commission, il y a 45 recommandations, donc il faut prendre chacune des recommandations, et en face, on met quelle action doit être faite, et tout de suite, et en avant, et on se met au travail immédiatement. Mmh. Or, ça, c'est du réflexe que moi j'ai, parce que j'ai un passé de chef d'entreprise, donc je peux tout de suite me projeter dans l'action concrète, mais c'est pas la philosophie de fonctionnement d'un système ecclésiastique qui a un fonctionnement bien différent et qui n'a jamais eu qui a toujours eu je dirais une réflexion par des échanges, par beaucoup de communication, puis une fois que tout le monde était d'accord 10 fois, ben on met en place les choses et donc on est à 100 milieux de ça pour que ça fonctionne. Et puis, sans compter que, même s'il y a des gens qui sont déterminés, comme c'est le cas d'Éric de Moulin-Beaufort,
oui.
Parce que moi, je l'ai rencontré quand on était à Reims et Charleville-Mézières, et je sais qu'il est sincère et déterminé, mais derrière, il y a 100 évêques. Et il faut que tout le monde soit avec lui. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce qu'on représente dans la pièce, cette église à deux vitesses, c'est malheureusement la réalité d'aujourd'hui. Donc, il va déjà devoir lutter contre ça avant de pouvoir mettre en place ce qu'il faut. Donc, malheureusement, ça va être compliqué. Et la tâche, elle est plus
monumentale.
Donc, elle est monumentale. Donc, ça veut dire qu'il a besoin d'aide. Voilà. Et moi, c'est ce que j'ai vu. Voilà. J'ai vu des personnes qui en fait ont surtout besoin de beaucoup d'aide et de l'aide certainement de laïcs.
Oui, mais alors justement, j'y pensais. Est-ce que dans cette réflexion que mènent les évêques, avec toute la bonne volonté qu'ils peuvent avoir, est-ce que cette aide de laïcs, je dirais même une confrontation plus importante avec les victimes, c'est-à-dire, ne parlons pas de confrontation, un échange avec les victimes que vous êtes, avec tous les acquis que vous avez drainés durant votre reconstruction, les uns et les autres. Est-ce que ce dialogue, là, il a lieu ?
Alors, oui, le dialogue, il a lieu parce que y a beaucoup d'associations qui existent avec des représentants et moi-même, j'ai participé à plusieurs échanges, donc le dialogue a lieu. Après, très, très franchement, la problématique, elle est vraiment dans l'obtention de l'adhésion complète de l'équipe et moi je crois qu'il faut que certains évêques aient peut-être le courage de dire je ne sais pas faire et puis peut-être que j'ai plus envie de me lancer dans un tel chantier, je suis tellement atterré par ce qui se passe que c'est plus de mon rôle de le faire. Et voilà qu'il faut avoir le courage aussi de se dire je laisse ma place peut-être à des jeunes qui, parce que des jeunes, moi j'en ai rencontré, ils sont mais outrés de la situation, parce que finalement, un jeune prêtre qui a 25 ou 30 ans, qui sort du séminaire, qui est motivé pour défendre la parole
de l'Église,
de l'Église il se prend des coups de bâton alors qu'il n'a rien demandé à personne. Oui. Mais par contre, il est super moteur pour tout faire changer et pour s'assurer que ça ne se produise plus, etc.
Sauf qu'eux,
ils vont vous dire, et je l'ai entendu, sur une chaîne télé où j'étais invité la semaine dernière, il y avait un prêtre avec moi qui a dit, mais c'est franchement terrible, il dit, je ne suis qu'un petit prêtre de mon église. Mais c'est pas possible de pouvoir dire ça. Donc ça veut dire que lui s'auto-considère comme un petit prêtre, donc ça veut dire que dans la machine de l'Église, on leur fait sentir que c'est ce qu'ils sont, des petits prêtres. Donc ça va pas. Donc ça veut dire que hiérarchiquement, on voit bien qu'il y a une espèce de pyramide qui est toute puissante.
Et qui traduit quand même
ce schéma-là qu'il faut casser. Quoi.
Oui, et qui traduit pour l'instant, en tout cas, une incapacité à arriver au bout. Parce que ce que j'entends arriver au bout, c'est entendre de la part de l'Église, pour vous, toutes victimes, un pardon franc et massif et pas brinque-ballant, vous voyez. Et la perception qu'on peut en avoir, témoins de tout ça, c'est l'image d'une Église qui est un peu contrainte, là, qui est au pied du mur et qui est poussée à s'excuser. Parce que l'époque qu'on vit aujourd'hui ne peut lui faire échapper à ce pardon, mais on ne sent pas des gens déterminés et des gens qui sont raccord avec l'état d'esprit général. En tout cas, ce que devrait être l'état d'esprit général, c'est condamner sans vraiment condamner de manière sans le moindre. Vous voyez ce que je veux dire, sans un pardon franc et massif, quoi, un pardon clair.
Il faut mettre en place aujourd'hui des mesures qui soient drastiques pour qu'on s'assure qu'il n'y ait plus aucun cas qui soit répertorié, et puis mettre en place des mesures partout, et ça veut dire mettre en place donc des outils, mettre en place des moyens de mesurer et de contrôler les outils qui seront implémentés et puis faire du reporting et s'assurer que tout ça fonctionne.
Et faire rentrer dans la boucle tous ces jeunes prêtres qui arrivent et qui ont eux une perception de des temps modernes et de cette église, de ce que doit être cette église aujourd'hui. Merci en tout cas, mon cher Laurent. On relaiera le nom de la pièce et les dates. Donc vous ne raccrochez pas, vous allez donner tous ces renseignements là à Florian et on mettra tout ça sur notre site pour que vous qui nous écoutez, vous puissiez venir voir cette pièce qui s'appelle Pardon, point d'interrogation. Merci mille fois, Laurent.
Merci beaucoup, Olivier.
Et portez-vous bien.
Merci.
Au revoir.